catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Voilà, bonjour et merci de nous être encore fidèles à 72 heures de la fête de Noël. Nous sommes encore en cette période de l'Avent et c'est la quatrième semaine. Avec le Père Roger, nous allons revenir sur les textes liturgiques du quatrième dimanche de l'Avent. Nous saluons la présence du Père Roger. Bonjour mon Père.
Bonjour Max, bonjour à toutes, bonjour à tous et voilà. Bon retour à Max.
Merci beaucoup mon Père. Quatrième dimanche de l'Avent, d'emblée, qu'est-ce qu'on peut dire mon Père?
C'est les dimanches de Joseph et Marie, hein, parce que ça s'agit de l'Annonciation. Qui est faite à Joseph, qui doit prendre Marie, son épouse, selon ce que l'ange lui a dit. Et donc, c'est les deux personnages principaux dans l'Évangile, Joseph et Marie, sans oublier l'archange, bien sûr.
Voilà, donc les fils conducteurs que nous allons découvrir tout juste après l'invocation à l'Esprit des dieux. Nous arrivons chez vous grâce au concours de Gina Lusonso. Nous saluons aussi en passant Maman Aimée qui est avec nous dans ces studios. Invoquons d'abord l'Esprit des dieux. Voilà les clés pour comprendre les textes liturgiques de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent. C'est avec le Père Roger Wawa, directeur national de Radio Maria. Père Roger, à vous la parole.
Merci beaucoup Max et merci à vous tous hein, qui êtes branchés sur la fréquence maternelle en ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Quatrième dimanche de l'Avent, c'est le dernier dimanche de l'Avent parce que dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Noël. L'Avent touche à la fin. Voilà pourquoi c'est le moment de faire un petit bilan. Chacun de nous devrait se poser la question de savoir bon, comment s'est passé ce temps de l'Avent, où est-ce qu'il avait commencé, qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis, quels sont peut-être les ratés. Chacun devrait faire un petit bilan pour améliorer prochainement. Mais ce n'est pas encore tard parce que Noël, c'est dans pratiquement 3 jours et donc il y a encore lieu de recadrer certaines choses, de redresser les tirs pour atteindre les objectifs qu'on s'était assignés. Première lecture, un quatrième dimanche de l'Avent. Première lecture, Isaïe 7, de 10 à 16 ans. Et puis, Évangile Matthieu 1, de 18 jusqu'à 24 ans. Isaïe, fidèle un peu à sa théologie, fidèle à sa pensée, nous présente toujours un Messie dans un contexte politique. Parce que pour lui, le Messie, c'est le prince de paix. Il doit apporter la paix et la paix entre Israël et ses voisins. Évidemment, à son époque, la paix passe par la guerre. Donc le Messie doit être celui qui va réorganiser l'armée, il va restaurer le royaume de David pour que Israël puisse maîtriser ses voisins et être en paix. Donc ça, c'est un peu la vision d'Isaïe. Voilà pourquoi le Messie est le prince de paix. Le prince de paix, donc là, on voit déjà qu'il s'agira d'un Messie au sens politique du mot. C'est différent d'autres prophètes, comme Malachie. Malachie, dans son livre, pense plus à un Messie prêtre. Parce qu'à l'époque de Malachie, le problème, ce n'est pas tellement la paix avec les voisins, parce que Israël ou la Judée était devenue une province de l'Empire perse. Et donc, ils sont en paix. Mais il y a le temple qui a été reconstruit, mais le culte du temple est corrompu. Les prêtres ne sont pas pieux. Les acteurs liturgistes, lévites et autres ne sont pas pieux. Alors le Messie doit venir réformer la liturgie au temple, doit venir réformer le temple dans son organisation. Donc c'est le Messie prêtre. Ça c'est Malachie. Mais Isaïe, c'est différent. C'est le Messie qui doit tout faire pour qu'il y ait la paix. Et la paix n'est possible que dans le contexte de l'époque aussi, justement. On restaure le royaume de David avec une armée qui peut maîtriser les voisins d'Israël, hein, qui lui donnaient du fil à retordre. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer la première lecture, hein, où Isaïe demande et dit à Akaz de demander un signe. Le roi refuse parce qu'il venait de sacrifier le prince héritier. Et influencé par des pratiques cananéennes, il a sacrifié le prince héritier. Voilà pourquoi il dit qu'il ne veut pas éprouver Dieu. Mais en fait, c'est un roi qui est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas un roi pieux. C'est un roi qui ne croit pas trop. Il ne croit pas tellement en Dieu. Et donc, voilà pourquoi, pour lui, il dit qu'il ne faut pas fatiguer Dieu. Donc, il laisse... Il pense que le salut ne viendra pas de Dieu. Alors Isaïe lui dit, voilà, la Vierge est enceinte. Entre cette prophétie d'Isaïe et le temps de sa réalisation, c'est plus ou moins 700 ans. Voilà comment Dieu agit. Il promet, mais il réalise plus tard. Il réalise quand il veut, parce qu'il faut que l'humanité se prépare à accueillir le Messie. Il faut un temps de préparation. Voilà pourquoi chaque année, avant de célébrer Noël, nous prenons un temps de préparation à la fête de Noël, en célébrant ce qu'on appelle la période de l'Avent. Il faut toujours une préparation. Cette préparation pour accueillir le Messie a duré plus ou moins 700 ans. Depuis l'époque d'Isaïe, 7e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de Jésus, 1er siècle de notre ère, et donc plus ou moins 7 siècles, 700 ans, s'étaient écoulés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les protagonistes, c'est Joseph et Marie. Donc, deux personnages importants qui sont des fiancés. Ils ont déjà leur projet, mais Dieu vient bousculer. Il vient bousculer leur projet. Il a promis par la bouche d'Isaïe que la Vierge enfantera, et c'est ce qui va se passer. Parce que Marie tombe enceinte avant même qu'il ne soit marié à Joseph. C'est que tombe enceinte comme vierge. Ça confirme ce qu'Isaïe a dit. Voici que la Vierge est enceinte, c'est-à-dire une femme qui n'a pas connu d'homme, mais qui est enceinte. C'est ça le sens de cette prophétie à la lumière de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, on verra que ce soit chez Luc, Luc 1 ou bien Matthieu 1, on insiste sur le fait que Marie est enceinte avant le mariage, alors qu'elle est vierge. Et donc, c'est une conception miraculeuse grâce à l'action de l'Esprit-Saint. C'est ce que dira cet évangile, hein, qui dit clairement que « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Et chez Luc, le même ange dira « L'Esprit-Saint te prendra sous son ombre. » Voilà pourquoi l'enfant qui va naître sera le Fils du Très-Haut. Donc il y a l'action de l'Esprit-Saint dans la vie de la Vierge, Vierge Marie. Donc, conception miraculeuse et naissance miraculeuse de Jésus que nous allons célébrer d'ici quelques jours. Joseph, lui, malgré tout ce qui arrive, il est d'une sérénité incroyable. Voilà pourquoi il est en fait le patron de la Sainte Famille et même le patron des familles. Mais il est aussi le patron des travailleurs. C'est le protecteur, si vous voulez, des familles. Parce qu'une sérénité incroyable, devant une situation pareille, qu'on te dise que voilà, ta fiancée est enceinte. Et donc, mais il est serein, un homme qui a une grande force intérieure, et il est très fort spirituellement. Il est serein, il a la paix du cœur. Il dit, on va se séparer, pas publiquement, on ne va pas la dénoncer publiquement, mais en catimini, pour protéger la dignité de sa femme. Ça, c'est merveilleux. Mais... d'autre part aussi, il est attentif à la volonté de Dieu. Parce que dès que l'archange lui dit, écoutez, ne crains pas de prendre Marie ta femme, Joseph se réveille et puis il va prendre Marie. Il prend Marie. Ça, c'est un peu sa vocation, sa mission, c'est de prendre Marie. Ça, c'est la première fois qu'on nous dit ça dans l'évangile de Matthieu. Joseph prend Marie et après la naissance de Jésus, il va encore prendre Marie et l'enfant pour aller en Égypte. Et Matthieu toujours nous dira encore, quand l'ange va leur apparaître, va lui apparaître en Égypte pour dire que voilà, Hérode le Grand est décédé, maintenant tu peux rentrer en Israël, Joseph prendra encore Marie et le fils. Donc, au moins à trois reprises, le texte dit « Joseph prend Marie ». Donc, ça montre que c'est quelqu'un, non seulement qui est obéissant à ce que le Seigneur lui recommande, mais c'est aussi une personne qui est très attentive à son épouse Marie et à leur enfant, c'est-à-dire Jésus. Joseph obéit et l'obéissance se fait grandir. Il devient grand parce qu'il a obéi. Aujourd'hui, c'est un personnage biblique parce qu'il avait pris Marie. Voilà pourquoi prendre Marie, c'est très important. Chez Jean, Jean 19, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et le disciple prit Marie chez lui. Il y a des gens qui prennent Marie, Joseph, et puis Jean au pied de la croix. Jean la prend comme maman, comme mère, et Joseph la prend comme épouse. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous aussi, hein, nous, les dévots de la Vierge Marie, à prendre Marie. Prendre Marie, c'est-à-dire avoir la dévotion mariale, prier par son intercession. Prendre Marie aussi comme l'imiter. Imiter surtout ses vertus. Les vertus de Marie que nous voyons en ces temps de l'Avent, comme l'humilité, la serviabilité, la foi, l'espérance et tant d'autres vertus mariales. Merci.
Merci Père Roger. Nous allons marquer donc une pause. Notre numéro est à votre portée, 081 99 66 098 pour des préoccupations. Voilà, de retour dans ces studios, Emmanuel Ferrario, les studios du siège national de Radio Maria. Vous écoutez Radio Maria RDC à travers son programme phare, la catéchèse du Père Directeur. En première partie, vous avez suivi donc la partie exposée magistrale et maintenant vos messages peuvent entrer en lice pour cette interactivité. 081 99 66 098, c'est notre numéro, plus 243 81 99 66 098, et le Père Roger va vous rencontrer à travers vos préoccupations. Nous prenons déjà trois questions qui nous viennent de Lubumbashi. On va aller donc l'une après l'autre. Bonjour Père Roger. Bonjour Maxime et merci de la catéchèse du jour. J'ai trois questions. En quoi les silences obéissants, qui est mis entre guillemets, silence obéissant de Joseph, qui accueille la parole de l'ange sans prononcer une seule parole dans l'évangile, révèle-t-il une dimension essentielle de la foi comme accueil de l'inattendu des dieux? Comment cette attitude peut-elle éclairer notre propre disposition intérieure à l'approche de Noël?
Merci pour la question qui nous est posée depuis Lubumbashi. C'est vrai, c'est-à-dire c'est quand même étonnant parce que presque tous les personnages impliqués au premier chapitre de Luc parlent. Zacharie a posé des questions à l'ange, hein, quand l'ange lui apparaît au temple. Il a posé des questions, puis plus tard il va chanter le Benedictus, le cantique de Zacharie. Élisabeth parle, lorsque Marie va lui rendre visite, bien... elle va parler, elle va dire, voilà, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? La Vierge Marie, n'en parlons pas, parle. Mais Joseph, aucune parole dans les évangiles. Ça, c'est quelque chose de particulier qu'on voit chez Joseph parce qu'il est le père adoptif du Verbe incarné. Il a adopté le Verbe. Il doit se taire pour laisser parler le Verbe. Il est le père adoptif du Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus. Comme il a adopté le Verbe, quand on adopte, on doit assumer. Il adopte le Verbe, il adopte son Fils, qui est le Verbe, la parole de Dieu, devenu chair. Voilà pourquoi il s'était pour laisser parler cette parole. Ça, c'est ce qu'on peut dire du point de vue théologique. Mais du point de vue pratique, bon... Lui-même, il a déjà dit, c'est-à-dire que nous sommes parfois appelés à accueillir certains événements mystérieux qui nous arrivent, les mystères de Dieu dans notre vie, sans faire beaucoup de bruit, en étant simplement à l'écoute du mystère, qu'on ne va peut-être pas comprendre profondément, mais au moins être à l'écoute du mystère. Je crois que Joseph est aussi à l'écoute de ces mystères de l'incarnation. Ça le dépasse. ça les dépasse, voir que Dieu lui confie une telle mission. Et dans son silence, qui a un sens théologiquement, celle-ci, tout simplement, ça peut être aussi un silence, le silence de celui qui est surpris. Le silence surprise. Il est surpris agréablement, il n'en revient pas. Voilà pourquoi il s'était.
Nous prenons la deuxième question de Agnew Pascal à partir de Lubumbashi. Les signes donnés par Isaïe, la Vierge enfantera est interprétée par l'évangile de Matthieu comme s'accomplissant en Marie. Comment comprendre théologiquement cet accomplissement? S'agit-il d'une simple réalisation, d'une prédiction ou d'un dépassement qui révèle la manière dont Dieu écrit l'histoire du salut?
Bon, pour nous, ça s'accomplit en Marie, pour nous les chrétiens. Les juifs interprètent cela autrement. Ils interprètent cela autrement. Il y en a qui pensent à certains rois qui sont venus après Akaz et qui étaient des rois pieux, comme Josias. Josias est un roi pieux. Et donc la prophétie d'Isaïe, pour certains, pourrait être Josias, un roi qui a quand même bien dirigé Israël, qui a réformé, il a entrepris un bon nombre de réformes, dont la réforme religieuse. Bon, nous les chrétiens, on dit que ça s'accomplit en Jésus. Il y a d'autres juifs qui disent que ce n'est pas encore accompli. Parce que dans la perspective d'Isaïe, ça c'est vraiment une perspective très politique. Hein, des messies auxquels pense Isaïe, c'est les messies au sens politique du mot, je l'ai dit. C'est différent des Malachies. Où le Messie est plutôt celui qui doit réformer les cultes du temple, donc le Messie prêtre. Alors, comme c'est le messianisme politique, il y a des préalables pour les Juifs qu'il faut observer pour que le Messie vienne. Notamment, il faut reconstruire le temple, parce que le temple a été détruit. Donc, c'est un défi pour eux, ils ont perdu. Face aux Romains, le temple a été détruit. Et donc, avant que ce Messie, au sens politique du mot, ne vienne, il faut reconstruire le temple. Voilà pourquoi, pour eux, ils disent le Messie n'est pas encore là. Mais nous, on dit, eh bien, ce Messie-là, c'est le Christ. Est-ce que c'est le dépassement, c'est l'accomplissement? Bon, ça dépend de l'approche que vous voulez prendre. Évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, mais le problème reste le seul, le fait que c'est un accomplissement pour nous les chrétiens. Parce que l'Ancien Testament peut offrir plusieurs pistes d'interprétation, pistes de lecture. Surtout chez les Juifs, par exemple. Les Juifs ne l'interprètent pas comme nous. Pour nous, c'est un accomplissement. Mais eux, comme je venais de le dire, ils voient les choses autrement.
Nous prenons sa troisième et dernière question. L'annonce à Joseph, on l'appellera Emmanuel, Dieu, c'est-à-dire Dieu avec nous. En quoi cette venue de Dieu avec nous en Jésus-Christ transforme-t-elle radicalement la relation entre Dieu et l'humanité par rapport à l'attente vétérotestamentaire? Et comment cette présence s'évite-t-elle dans la liturgie et la vie de l'Église d'aujourd'hui?
Oui, mais il faut savoir seulement que c'est une nouveauté. C'est inédit. Même si dans l'Ancien Testament, ça apparaît, je crois, chez Malachi, où on parle de Dieu sera père et puis son peuple sera fils. Mais c'est vraiment inédit. Ce qui arrive avec l'incarnation, c'est que c'est Dieu qui prend notre chair. Dieu fait homme, il devient homme comme nous en toutes choses, excepté les péchés. Ça, c'est très, très important. Et il est Emmanuel, c'est-à-dire avec nos dieux. Il reste avec nous jusqu'à la fin des temps. Il le dira en Matthieu 28, 20. Hein, donc, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Saint Jean, c'est l'évangile du matin de Noël, hein, le 25. Saint Jean exprime cette présence de Dieu de façon magnifique, avec des images de l'Ancien Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance était sous la tente. L'Arche de l'Alliance était cachée, était couverte, si vous voulez, par la tente. Et le matin de Noël, l'incarnation est exprimée en ces termes-là. C'est comme si l'Arche, Jésus serait l'Arche de la Nouvelle Alliance, couverte par la tente. Même si, dans la perspective de Luc, l'Arche, c'est plutôt Marie. Alors, quand on dit le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il a habité parmi nous, c'est au sens de, il a étendu, il a planté sa tente parmi nous. En fait, c'est ça. Donc, il est avec nous, présence réelle à travers le Saint-Sacrement, parce que vous parlez de l'Eucharistie. Donc, on trouve sa présence réelle dans l'Eucharistie, mais sa présence se lie aussi à travers les événements de la vie, à travers les pauvres qu'on rencontre. Eh bien, comme disait Saint Vincent de Paul, les pauvres, c'est les sacrements de Dieu, c'est-à-dire les pauvres, c'est des signes de la présence de Dieu. Les pauvres nous font penser à Jésus. Tout ce que vous faites à celui-ci, c'est à moi que vous le faites. Et donc, voilà ce que moi je peux dire. Donc, il est avec nous, sa présence est là, symboliquement, mais aussi réellement, dans la liturgie, notamment dans le sacrement de l'Eucharistie.
Merci beaucoup, mon père. Nous allons poursuivre avec vos préoccupations. Nous allons à Brazzaville à travers cette série de questions proposées par Ephraim dans la ville de Brazzaville. Bonjour, mon père et toute l'équipe de Radio Maria. En quoi Joseph fut-il un homme juste? Quels sont les critères de sa justice?
Merci beaucoup à notre frère depuis Brazzaville. Hein. Le juste, c'est celui qui observe la parole de Dieu. Parce que la justice, c'est cela. La justice s'exprime à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu correspond à la volonté de Dieu. Donc le juste observe la parole de Dieu et par conséquent, il est attentif à la volonté de Dieu qu'il met en pratique. Et on voit qu'il est juste, pourquoi? Parce que d'abord, il va se séparer avec sa femme. Dès qu'il a appris que, bon, écoutez, sa femme est grosse, il décide, plutôt sa fiancée est grosse, il décide la séparation. Ça, c'est la première chose. Mais comme Dieu ne veut pas qu'on tue, tu ne tueras pas. Voilà pourquoi, fidèle au décalogue, là où le décalogue dit tu ne tueras pas, il veut protéger la vie de sa femme. Il ne voudrait pas que sa femme soit lapidée, même si le Lévitique le permet. Lapider des personnes prises en flagrant délit d'adultère, ça c'est dans le Lévitique. Mais Joseph voit les choses autrement. Il y a aussi le décalogue qui interdit de tuer, de verser le sang. Voilà pourquoi il ne veut pas dénoncer publiquement Marie. C'est là qu'il est juste, parce qu'il observe la parole de Dieu, cette parole qui dit qu'on ne peut pas verser le sang. Et après, on voit qu'il observe aussi la volonté de Dieu quand l'ange lui apparaît. Il lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Ben, il va exactement faire cette volonté de Dieu en prenant Marie. Et après la visite des mages, l'ange lui dit encore ce que Dieu veut, lui transmet la volonté de Dieu, prend Marie et l'enfant, fuit en Égypte, il le fait, il le fera autant de l'Égypte pour Nazareth. Donc, dans les évangiles, il ne parle pas, mais il met en pratique la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui fait beaucoup. Donc aucune parole, mais beaucoup d'œuvres, beaucoup d'initiatives. Au niveau concret, il agit. C'est un homme d'action qui ne parle pas, mais qui agit.
Merci beaucoup, mon père. On va prendre la deuxième question d'Ephraim depuis Brazzaville. Est-ce que pour Joseph, c'est une opportunité de faire tout ce que l'ange lui a demandé dans l'espoir d'être appelé, entre guillemets, papa, étant donné qu'il était déjà âgé?
Mais non, il est fait parce qu'il est un homme juste. Ce n'est pas parce qu'il a de l'âge, parce que la justice ne dépend pas de l'âge. Bien que, bon, chez les Juifs, ils estimaient que l'âge de jugement, c'est 40 ans. 40 ans, c'est l'âge du jugement. C'est comme cela qu'ils pensaient. Mais Joseph, dans les évangiles, n'est jamais présenté comme un vieil homme. Le vieil homme, ça vient des apocryphes et un peu de la tradition aussi. Et de l'iconographie. On voit souvent Joseph est représenté comme un vieil homme, un vieillard. Mais comme je disais il y a quelques jours, dans l'iconographie, quand vous voyez quelqu'un représenté comme un vieillard, un vieil homme, ça peut être simplement la sagesse. Ce n'est pas nécessairement lié à l'âge, mais la sagesse. Alors, dans les évangiles en tout cas, on ne dit pas qu'il était vieux. On le voit agir d'ailleurs tel qu'il est. Il est vraiment très dynamique. Prendre l'enfant et sa maman, aller en Égypte, tout ça, tous ces voyages-là, venir à Jérusalem, on voit qu'il est encore à la force de l'âge. Ça, c'est très important de savoir que l'image d'un Joseph qui est très vieux, ça vient de l'apocryphe, proto-évangile de Jacques, et puis de la tradition aussi et de l'iconographie. Mais dans les évangiles, en tout cas, cela n'apparaît pas. On n'a pas l'impression qu'il est très vieux dans les évangiles.
On continue encore avec ces préoccupations d'Éphraïm. La foi et la raison. Où se situe la foi de Joseph et sa raison?
Mais la foi, c'est parce que d'abord, il adhère. Il adhère à ce que Dieu veut. Il adhère à ce que Dieu veut. C'est ça la foi. Quand vous adhérez à la volonté de Dieu, c'est que vous avez la foi. Parce que vous faites confiance en Dieu. Et donc, sur ce point-là, il n'y a pas de commentaire à faire parce qu'il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Alors, la raison, c'est au niveau de l'agir. Parce que, bon, prendre l'enfant et va en Égypte. Mais on ne lui dit pas par où il doit passer. C'est juste prendre l'enfant. Bon, mais lui-même doit réfléchir dans l'agir. Il ne va pas passer le temps à dire, bon, écoutez, l'ange, portez-nous en Égypte. L'ange, indique-nous le chemin. Non. Lui-même, maintenant, il doit réfléchir. Nous devons aller en Égypte. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Il réfléchit. C'est là la raison. Que tu as une directive qui vient de Dieu. Maintenant, il faut la mettre en pratique et tu dois réfléchir. On n'a pas dit qu'il a commencé à prier à tout moment pour que le Seigneur lui révèle le chemin, non. Bien sûr, il était assisté par l'Esprit-Saint, mais il doit agir. Et de même aussi, quand on dit, bon, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, bon, il doit réfléchir comment la prendre, parce que le texte ne dit pas tout. Elle est quand même grosse, mais je dois la prendre. Mais il a aussi une famille. Il y a autour de lui quand même des gens qui sont des scribes, et les scribes sont des gens qui veillent au grain. Ils peuvent lui dire, mais vous prenez votre femme là, mais apparemment, elle est déjà grosse. Est-ce que c'est vous? Pourquoi vous la prenez? Et donc, il y a des questions auxquelles il devait répondre quand même. Il y avait des situations qu'il devait gérer. Comment expliquer à sa famille? Voyez-vous, Maxime, si ça vous arrive, comment vous allez faire? Comment vous allez expliquer à votre famille que voilà, un ange m'a dit que je dois prendre mon fiancé, même si sa grossesse là ne vient pas de moi? Voyez. Donc c'est là qu'intervient la raison. Il y a des choses qu'il a faites qui ne figurent pas dans la Bible et qui montrent que c'est un monsieur qui croyait et qui réfléchissait.
Voilà, on va finir avec les questions d'Éphraïm et on va cumuler ces deux questions qui vont dans le même sens. Si Joseph était un homme de notre époque, en acceptant tout ce que l'ange lui avait demandé, est-ce que Jésus pourrait être la bienvenue de cette famille et même Marie? Si Joseph était un homme de notre époque, aurait-il aimé Jésus malgré ses réponses, bon, entre guillemets, il appelle ça vulgaire, lors de sa disparition? Voilà les questions d'Éphraïm depuis Brazzaville.
Oui, merci beaucoup à notre frère Éphraïm depuis Brazzaville. En fait, Joseph, c'est un homme de tous les temps. Le problème, ce n'est pas qu'il a vécu hier ou aujourd'hui ou avant-hier ou demain. L'important, c'est que c'est un homme juste. Lui, il se comporte comme un homme juste. Il ne se comporte pas comme un homme du premier siècle, un homme juste. Et aujourd'hui encore, il y a des hommes justes, des gens qui cherchent la volonté de Dieu. Quand il y a là des problèmes avec sa femme, bon, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire en tenant compte de la parole de Dieu, en tenant compte de ce que l'Église dit? C'est ça être juste, en fait. Il y a encore des Joseph aujourd'hui qui, dans certaines situations difficiles, lorsqu'il y a des problèmes dans la vie de couple, il réfléchit comme Joseph. C'est-à-dire, il dit, bon, je dois régler ce problème en tenant compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que l'Église nous conseille? C'est ça, en fait, être Joseph aujourd'hui. Mais vous allez trouver aussi des gens qui sont opposés à Joseph, c'est-à-dire, devant des problèmes, bon, il résout ça comme il veut. Après, il disparaît de la paroisse. Parce qu'il sait qu'il s'est comporté d'une façon telle que ça ne peut pas plaire à l'Église, alors il a disparu. Mais il y a des Joseph aujourd'hui, des gens qui, devant des situations difficiles qu'ils doivent gérer dans la vie des couples, dans la vie familiale en général, ils se comportent en tenant compte de la parole de Dieu et en demandant ce que veut l'Église. Ils demandent au curé, qu'est-ce que l'Église me demande de faire en pareille circonstance? Le curé le lui dit et puis il le met en pratique. En fait, c'est ça, Joseph.
Merci beaucoup, Père Roger. Vous écoutez Radio Maria. L'émission, c'est la catéchèse du Père Directeur. Nous recevons pour vous le Père Roger Ouawa. Ne nous appelez pas. Excusez-nous. Laissez-nous un message. On va vous prendre un peu plus tard. Nous continuons à lire vos préoccupations. Bonjour, Père Roger. Bonjour, Frère Maxime. Merci pour la catéchèse. Voici mes préoccupations. Que révèle la prophétie d'Isaïe sur la manière dont Dieu intervient dans l'histoire des hommes? C'est la première question.
Mais Dieu intervient dans l'histoire des hommes parfois en nous surprenant, agréablement ou désagréablement, à première vue évidemment. Et là, chez Isaïe, évidemment, c'est une surprise, parce qu'il est avec Akaz. Hein. C'est une surprise pour Akaz, parce qu'Akaz est un peu soucieux de la relève, parce que le prince héritier est décédé. Il a tué le prince héritier, il l'a sacrifié. Et maintenant, il y a cette prophétie d'Isaïe qui tombe à point nommé pour nous, mais pour lui, c'est un peu une surprise. Une surprise, parce que bon, le prophète l'a dit. Est-ce que lui, il a cru? Ça, je ne sais pas, parce que Akaz n'était pas tellement un roi pieux. En tout cas, il n'était pas comme Josias et tant d'autres rois pieux du sud. C'est quelqu'un qui menait une vie un peu, il faisait un peu sa tête, au point même de sacrifier, comme je venais de le dire, l'un de ses enfants, qu'il a fait tuer comme faisaient les Cananéens. Donc, je ne sais pas s'il y avait cru, lui, Akaz, mais en tout cas, nous, nous y croyons, nous croyons en cette prophétie-là, parce que ça s'est réalisé.
Merci beaucoup. Quel rôle joue Joseph dans l'accomplissement de la promesse d'Emmanuel et que nous apprend-il sur la confiance en Dieu? La deuxième question de Sylvain depuis Matadi.
Ah ben, il nous apprend beaucoup, hein. Merci à notre frère depuis Matadi. Il nous apprend beaucoup. Il nous apprend l'obéissance. Il nous apprend aussi comment est-ce qu'on doit agir dans la vie sans trop parler. Joseph, ce n'est pas un homme de beaucoup de paroles. Il ne parle pas aucun mot, mais beaucoup de choses concrètes, des réalisations concrètes. C'est très, très important. Et bon, il a parlé de confiance. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Parce que prendre une décision pareille, donc ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Et puis, il se réveille, il prend Marie, sa femme, même si... Bon, ce qu'elle a en elle ne vient pas de lui. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi, mais qui fait aussi confiance totalement en Dieu. Et nous sommes appelés, comme lui, à faire confiance à Dieu. Ça, c'est très important dans notre vie, de le savoir que Dieu fait toujours ce qui est bon pour nous. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Joseph l'avait compris. Même si ce que Dieu lui demandait, du point de vue humain, était difficile, mais il a compris une chose, c'est que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Donc tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien.
La dernière question de Sylvain depuis Matadi. En quoi le nom Emmanuel, Dieu avec nous, est-il une réponse aux peurs et doutes d'Israël et aussi aux nôtres aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire Dieu avec nous, Dieu qui reste avec eux, parce qu'ils ont toujours souhaité cela, hein, que Dieu soit avec eux depuis le désert, hein. Dieu était avec eux à travers la nuée de feu et puis après, Dieu pratiquement a construit sa maison au milieu d'eux, l'Arche de l'Alliance, symbole de la Shekinah, présence de Dieu, avec laquelle ils ont cheminé tout au long du désert. C'est l'Arche de l'Alliance qui les a aidés à traverser le Jourdain à pied sec, miraculeusement. Et puis, l'Arche de l'Alliance avait disparu à un certain moment. Alors, voilà pourquoi, vous comprenez, la prophétie plutôt de l'Emmanuel, c'est par rapport à tout cela. Il y a une histoire de Dieu qui a marché avec son peuple à travers l'Arche de l'Alliance qui disparaît. Et donc maintenant, il faut trouver la solution. La solution, c'est quoi? C'est le Messie qui va venir et Immanuel, c'est-à-dire avec nous, Dieu. Il est Dieu avec nous. On n'a plus besoin de l'Arche de l'Alliance parce qu'il est Dieu avec nous. Voilà pourquoi je disais que les textes des gens que nous lisons le 25 décembre, le matin, très important, je reviens là-dessus, parce que si dans l'Ancien Testament, c'est l'Arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu, couverte par la tente, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de l'Arche de l'Alliance de Dieu, de l'Arche de l'Alliance, parce que Jésus lui-même est là, il a planté sa tente parmi nous. Il habita parmi nous, signifie dans la version grecque, il a planté sa tente parmi nous. Or, la tente a quelque chose à voir avec l'Arche de l'Alliance. Donc voilà, il est Immanuel parce qu'il vient pour assurer à son peuple une présence divine qui est beaucoup plus importante que la présence symbolique de Dieu à travers l'Arche de l'Alliance.
081-99-66-098, c'est par ce numéro que vous pouvez participer à cette catéchèse rétroactive. Les Père Roger Wawa, directeur national de Radio Maria, revient avec nous sur la compréhension du quatrième dimanche du temps de l'Avent. On écoute cet élément sonore.
Bonjour Père Roger, bonjour à Maxime et à toute l'équipe. Merci beaucoup Père Roger pour cette très belle catéchèse. J'ai quelques petites questions par rapport à la première lecture. Akaz sacrifie son fils. Quel était l'objectif à ce moment-là? Surtout la culture cananéenne de sacrifier le premier-né. Quelle était leur conception, mon père? Deuxième question. Joseph est emporté par Dieu. Dieu va changer son plan. Tout ce qu'il avait comme conception avec Marie, Dieu va le détourner de son projet. La question que je voudrais poser, mon père, comme dans le désert, Dieu avait secouru son peuple en lui donnant quotidiennement la ration. Pourquoi Dieu ne l'avait pas fait aussi pour Joseph, mon père? Hein? Joseph a continué à souffrir, et il a beaucoup travaillé pour faire vivre la famille de Nazareth. Pourquoi Dieu ne lui avait pas accordé certains privilèges, surtout la ration quotidienne? Merci beaucoup, mon père, c'est Désiré Kabou à partir de Bukavu, paroisse Mater Dei.
Merci beaucoup, Désiré, mon père.
Merci à notre frère depuis Bukavu. Alors, la première chose, le sacrifice des fils aînés chez les Cananéens était très répandu. Aujourd'hui encore, dans le nord d'Israël, les archéologues ont repéré des fosses où on sacrifiait, où les Cananéens sacrifiaient leurs enfants. Il y a encore des fosses qui sont restées. Ce sont des fosses dans lesquelles ils jetaient leurs enfants, puis on les brûlait. Alors, c'est cela aussi qui a influencé Abraham à un certain moment. Il voulait sacrifier Isaac, considérant que c'était la volonté de Dieu, sacrifier Isaac. C'est une influence cananéenne. Mais heureusement qu'il est revenu à la raison, il a compris que non. Dieu voulait, parce qu'en hébreu, le verbe utilisé peut signifier sacrifier et présenter. C'est ça en fait, c'est un verbe qui est polysémique, donc au moins ça signifie présenter, mais aussi sacrifier. Alors il a compris que Dieu ne voulait pas que son fils soit sacrifié, qu'Isaac soit sacrifié, mais qu'il soit simplement présenté. C'est alors que bon, le récit va virer, autrement il y aura l'animal qu'il va sacrifier. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Alors c'est dans ce contexte-là qu'Akaz aussi a sacrifié son fils. Pourquoi il sacrifiait? Parce que ça renforçait la famille, d'après les Cananéens. Ça renforçait la famille, ça attirait la bénédiction sur la famille. Et comme lui il est roi, eh bien ça va rendre plus fort son royaume. Son royaume sera plus fort. Et il va beaucoup durer sur le trône. Donc des choses pareilles, voilà. C'est ce qui justifie cet acte ignoble qu'Akaz avait posé. Bon, c'est tout à fait normal que Dieu choisisse un couple, puisqu'il doit donner son enfant au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils, comme c'est dit en Jean 3. Mais il faut quand même une famille qui accueille cet enfant-là. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont disponibles. Heureusement, on a trouvé un couple disponible, c'est Joseph et Marie. Ils ont trouvé un couple disponible. Et pour nous, bon, c'est quand même, c'est très exigeant ce qui est arrivé. Mais pour eux, bon, ils étaient choisis pour ça. Si le Seigneur vous choisit, il vous donne aussi des grâces, des charismes pour que vous puissiez assumer la mission qu'il vous a confiée. Et voilà pourquoi la mission de Joseph, c'est une mission assez particulière. Et quand nous disons que, bon, après, bon, il n'y a eu rien entre lui et sa femme, bon, beaucoup disent, mais non, c'est impossible, mais c'est impossible pour vous. Mais lui, il avait reçu une mission particulière, et à cette mission correspondent des grâces particulières qu'il a reçues, que vous n'avez peut-être pas. Mais lui, il avait ces grâces-là, que le Seigneur lui a données pour qu'il soit simplement père adoptif de Jésus. De même aussi Marie, mère biologique, a reçu aussi des grâces particulières par rapport à cette mission. La ration quotidienne, bon, je n'ai pas bien compris. Je voulais que Joseph soit... Parce qu'en réalité, bon, Joseph, c'est un homme de son temps. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait que les évangiles ne le présentent pas comme un vieillard. Ça, ça vient de la tradition et puis de, surtout de l'apocryphe, le proto-évangile de Jacques. Parce que c'est un homme qui est fort. On l'appelle charpentier. C'est lui le charpentier. Donc, il travaille. Il travaille. Et puis, son fils aussi est considéré comme charpentier. Un charpentier n'a pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas un nanti, mais un charpentier n'est pas non plus un misérable. Il est dans la classe moyenne. Et donc, il avait le minimum nécessaire pour sa femme, pour son enfant et pour lui-même.
Merci beaucoup, Père Jean. On va peut-être se rabattre à l'autre côté de la baie vitrée pour avoir les préoccupations des mamans aimées.
Merci beaucoup, Maxime. Merci, Père, pour la catéchèse d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'hier, mon Père, l'ange s'adresse à Joseph en lui disant « Ne crains pas ». Plus de 360 fois, cette expression « Ne crains pas » apparaît dans la Bible. Comment comprendre cette parole que l'ange adresse à Joseph en lui disant « Ne crains pas ». Est-ce Joseph avait peur de se projeter pour élever cet enfant Dieu ? Ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, mon Père. On peut dire aussi que Joseph est un choix de Dieu, comme aussi Marie est un choix de Dieu, parce que Joseph aussi a dit oui pour donner l'identité à cet enfant Dieu. Lui qui faisait partir d'une famille royale, donc Joseph, maintenant il est charpentier. Je vous ai suivi tout à l'heure. Mais on dira de son fils, descendant de David, le roi, qui est Jésus, ma deuxième préoccupation. Et ma dernière préoccupation, mon Père, la responsabilité lourde qu'avait Joseph pour élever cet enfant Dieu. N'est-ce pas que c'était un peu compliqué, c'était difficile pour Joseph. Mes préoccupations, mon Père, je vous remercie.
Merci à Maman Aimée, Père Roger.
Merci beaucoup à Maman Aimée pour ces trois questions qu'elle nous propose. La première question, c'est l'expression « ne crains pas », qui est très fréquente dans la Bible. On dit plus ou moins 365 fois. Je n'ai pas vérifié. J'entends ce que disent certains biblistes, bon, qui ont fait un peu des statistiques là-dessus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'expression « ne crains pas » fait partie de ce qu'on appelle l'oracle d'assistance. En général, ce « ne crains pas, je suis avec toi ». Et ça apparaît aussi, je crois, en Matthieu 28, 20. Hein, « Ne crains pas, ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est l'oracle d'assistance. Lorsque le Seigneur choisit les prophètes dans l'Ancien Testament, souvent les prophètes hésitent devant la mission qui lui est confiée. Il se rend compte que c'est une lourde mission, alors... Souvent, l'oracle d'assistance lui est adressé. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je serai avec toi. C'est l'oracle d'assistance. C'est comme cela qu'on appelle ça en théologie biblique. Alors, maintenant, dans les contextes de Joseph, la question est pertinente. Pourquoi on doit lui dire ne crains pas? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une lourde mission. Maman Aimée l'a dit dans la dernière question, et je réponds déjà à cette dernière question. On lui dit « ne crains pas » parce que c'est une lourde mission. Être père adoptif du Fils du Père éternel, qui est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ils avaient dans leur maison un enfant qui est vrai Dieu et vrai homme. C'est ça. Ce n'est pas qu'il est apparemment homme, mais Dieu, non. Il est vrai Dieu et vrai homme. On ne dira pas non plus qu'il est homme et apparemment Dieu, non. Vrai Dieu et vrai homme. Vous avez un enfant pareil. Il est vrai Dieu et vrai homme et vous devez l'élever. Donc c'est une lourde mission. Voilà pourquoi on doit lui dire « ne crains pas ». C'est-à-dire que le Seigneur lui promet aussi l'assistance. Et il va lui donner des grâces, des charismes particuliers par rapport à cette lourde mission. Mais la peur vient aussi des « quand ». Qu'est-ce que les gens vont dire ? Il y a la peur par rapport à la responsabilité qui est lourde. Voilà pourquoi on lui dit « ne crains pas ». Il y a aussi la peur par rapport à ce que les gens vont dire. Parce qu'il y a la loi quand même. Il y a la loi. Bon, maintenant, vous allez l'apprendre. Vous l'apprenez. Mais bon, il y a quand même un problème. Parce que ça vient d'où, cette grossesse-là? C'est pas tout le monde qui en était au courant, mais peut-être la famille en était au courant. Il faut convaincre la famille. C'est ça ce que moi j'avais dit, je disais tout à l'heure, lorsque on m'est posé la question de savoir la foi et la raison, comment ça fonctionnait dans la vie de Joseph. J'ai dit, mais il a eu à gérer des situations difficiles. Et là, la raison devait fonctionner. Hein, comment justifier le fait que, bon, maintenant, vous vouliez la dénoncer, vous vouliez, n'est-ce pas, la répudier, même discrètement, vous vouliez la répudier. Maintenant, vous avez changé de position. Comment vous allez expliquer ça? Et donc, voilà, ne crains pas. En fait, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont s'opposer, il y aura des gens qui vont critiquer, il y aura des calomnies, mais ne crains pas. Alors, oui, en fait, c'est une famille royale qui n'est plus au pouvoir. C'est ça. Il est descendant de David, mais la royauté de David a disparu. Et il comptait sur Jésus pour restaurer les royaumes ou la royauté de David politiquement. Voilà pourquoi il est un simple charpentier. Parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Depuis des siècles d'ailleurs. Maintenant, il est charpentier. Et Tsikaligaya Kombo, Bokonzia Kombo, politiquement parlant. Mais son fils est roi. Pas un roi au sens politique, royauté de service. Royauté de service, il va mourir sur la croix. Son trône, c'est la croix. Sa couronne royale, c'est la couronne d'épines.
Merci beaucoup, Père Roger, pour ces réponses. Nous allons écouter cet élément sonore depuis Bangui.
Radio Maria, bonjour. Bonjour à vous, notre estimé Roger Wawa. C'est Patti Mahimba depuis Bandundouville. Révérend, comment pouvez-vous déjà atterrir à cette conclusion comme quoi Israël s'était préparé en ayant le 7 siècle environ? C'est quoi cette conclusion-là? C'est par rapport à quoi? Quand nous voyons les comportements qu'ils avaient face à Jésus, les promis, est-ce que réellement ils étaient préparés? Ou c'était une façon seulement de dire quoi? Marie et Joseph, leur temps de fiançailles, c'était ta vie ou ils s'étaient mariés après un temps? Révérend Roger, entre la femme et les maris, qui doit porter le nom de l'autre? Ce n'est pas un péjoratif, hein? Comment expliquez-vous, mes confrères, qui j'entends souvent ici avec moi, dans cette émission, il se nomme Joseph de Marie, au lieu et place que ça soit Marie de Joseph. Il se nomme Félicien Katumba de Marie, au lieu et place de Marie de Félicien Katumba. C'est quoi ça? Donc, l'homme curieusement porte le nom de la femme. Comment vous pouvez expliquer cela, Révérend Roger? Merci beaucoup.
Merci, Patti.
Merci beaucoup à Patti depuis Bandundu. Bon, la première question, est-ce qu'Israël s'est préparé? Oui, il s'est préparé. Il s'est préparé, mais le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Ça, c'est clair. Donc, il y a eu quand même, l'humanité devait se préparer à accueillir le Fils de Dieu. Il y a eu quand même plus ou moins 7 siècles entre la prophétie d'Isaïe et puis la naissance de Jésus. Mais il y a eu des gens qui l'ont rejeté. C'est tout à fait normal parce que vous pouvez vous préparer autant que vous voulez, mais si votre cœur ne s'ouvre pas, eh bien bon. On peut vous préparer autant qu'on veut, autant que vous voulez, mais si votre cœur ne s'ouvre pas, bon. Le cœur endurci reste endurci. Mais il y avait quand même des gens, c'est-à-dire Jésus n'a pas échoué. Il n'a pas échoué parce que l'humanité, Dieu a quand même préparé l'humanité à accueillir son Fils. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont rejeté, mais il y en a aussi qui l'ont accueilli. Et déjà, après sa mort et sa résurrection, si vous lisez les Actes des Apôtres, il y avait une multitude de gens, dans Acte 2, une multitude de gens qui se convertissaient, qui devenaient des chrétiens. Et aujourd'hui, Patti qui est protestant, nous qui sommes catholiques, ensemble, nous sommes, je crois, plus de 2 milliards. Il y a plus de 2 milliards de chrétiens, nous tous. Mais ces statistiques-là ça montre que l'humanité s'est quand même préparée à accueillir Jésus. Donc il y a eu quand même, il y a eu des gens qui l'ont rejeté, mais beaucoup d'autres ont adhéré, comme vous, Patty, comme moi. On a adhéré, n'est-ce pas, à la foi en Jésus-Christ. La deuxième question, c'est Joseph et Marie, est-ce que, bon, ce sont des gens justes. Je crois qu'ils s'étaient mariés, ça c'est clair. Donc, ils ne s'étaient pas arrêtés au niveau des fiançailles parce qu'on ne peut pas prendre une femme sans le mariage. Il y a d'abord les fiançailles, plus ou moins 6 mois, 1 année, qu'on appelle éroshine. Et puis, dès que vous décidez de vous marier, il y a la dot qu'il faut donner symboliquement. Et puis après, la femme doit venir au mariage avec tous les biens dont la femme aura besoin, c'est-à-dire ce qu'il faut pour préparer à manger, tout ça. La femme doit préparer ça. Et puis l'homme doit donner une dot symbolique à la famille de l'épouse. Au cas où il y a divorce, il doit récupérer sa dot. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc, ils avaient abouti au mariage. Il y a eu mariage certainement avant que Marie ne puisse habiter sous le même toit que Joseph. Alors maintenant, l'autre question, c'est très pratique. Hein. Donc Joseph de Marie, de Jean de Marie, Roger de Marie, Maxime de Marie, comment est-ce qu'un homme peut porter le nom d'une femme? Mais ça veut dire tout simplement qu'on appartient, on est fils de la Vierge Marie. Et ça existe, il y a des gens, parce que si on est de la culture patriarcat, comme on dit, on comprendrait pas très bien cela. Mais bon, on peut aussi porter le nom de sa maman, pourquoi pas. On peut porter le nom de son papa et de sa maman. Dans certains cas, ça existe. Mais ici, on est dans un registre plutôt spirituel. C'est par rapport à ce que Jésus a dit au pied de la croix. Parce que pour nous, les catholiques, Jean 19, de 25 à 27, nous présente un personnage historique qu'on connaît, Saint Jean, le disciple bien-aimé, mais ce personnage historique est aussi symbolique. C'est-à-dire, quand Jésus dit à Marie, « Voici ton fils », il dit au disciple qui l'aimait, « Voici ta mère », le disciple qui l'aimait ou le disciple qui l'aime, c'est tout, nous tous. Parce que Jésus nous aime tous. À nous tous, disciples aimés, disciples que Jésus aime, Jésus a dit, « Voici ta mère ». Voilà pourquoi, pour exprimer, n'est-ce pas, notre adhésion à cette parole de Jésus, qui a dit, « Voici ta mère », et les disciples bien-aimés l'a pris. C'est Jean 19, de 25 à 27. Voilà pourquoi il y en a qui expriment ça par leur nom. Il dit, « Joseph de Marie ». Roger de Marie, X, Y de Marie, pour montrer que voilà, j'ai pris Marie. J'ai pris Marie avec moi, comme Jésus avait recommandé avant de mourir sur la croix, Jean 19, de 25 à 27.
Merci beaucoup, Père Roger. Nous atterrissons et pour cette première partie, quelques mots de gratitude. Bonjour, Père Roger. J'ai écouté la messe de ce matin à 5 heures et qui m'a fait beaucoup de bien. Merci pour les rappels et la comparaison entre Anne et Marie. De manière générale, merci pour les catéchèses et les prières, surtout en cette fin d'année. Merci à toute la Radio Maria pour tout ce que vous faites, surtout pour la diaspora. Le message est signé Rissa Izambayi depuis Suisse. Notre message de gratitude, c'est celui de Maman Odette. Bonjour Radio Maria, joyeux Noël à vous. Mon Père, merci de nous avoir nourris avec la catéchèse. Puisse le Seigneur vous accorder la grâce de continuer de nous édifier davantage. Mon Père, l'humilité et le silence de Saint Joseph sont quand même impressionnants. Et des mamans Odette Ngwei depuis la paroisse Bienheureuse Annualité à Kinshasa. Voilà mon père, c'est par ces deux mots de gratitude, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot à placer par rapport à ces deux messages, que nous allons clôturer cette première partie. Il est temps pour nous de vous donner aussi un mot, la parole pour un mot pour clôturer cette version française.
Merci beaucoup Max, merci à notre sœur Rissa, je crois, oui. C'est une auditrice, hein. Qui nous a écrit depuis la Suisse. Hein. Merci beaucoup. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en Suisse, notamment Maman Mireille Bafouka, Godem Bumbe et tant d'autres qui nous suivent en Suisse en ce moment. Et nous Il y a, en fait, c'est une question quand même, Maman Odette.
Oui.
Silence, humilité, silence de Saint-Joseph.
C'est impressionnant.
C'est impressionnant. Parce qu'en fait, lui, il doit se taire, non seulement parce que, bon, il a adopté le Verbe. Et donc, il laisse parler le Verbe, c'est-à-dire son Fils, et lui se tait. Mais, il se tait aussi devant tout ce que les gens peuvent raconter sur sa femme et sur sa décision de prendre sa femme. Alors que il voulait la répudier discrètement. Maintenant, du coup, il a changé, il a pris sa femme. Ça suscite des critiques. Ça suscite des commentaires dans tous les sens. Mais Joseph est silencieux par rapport à tout ça. C'est là où je voulais atterrir, que dans la vie, parfois, devant des critiques que vous pouvez essuyer, des calomnies, des commentaires qu'on fait sur vous, parce que, eh bien, imitez Joseph, soyez silencieux. Soyez simplement silencieux, parce que la vérité finit par triompher. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Nous terminons par un mot de prière.
Volontiers. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen. Amen.
Dieu notre Père, tu as choisi Joseph et Marie pour être les parents de ton Fils Jésus-Christ. Tu as ainsi sanctifié cette institution familiale. Parce que ton Fils est né dans une famille, il a grandi dans une famille, il a ainsi sanctifié toutes les familles du monde. Nous te prions, Seigneur, alors que nous nous préparons à célébrer l'incarnation de ton Fils. Jette un regard, Seigneur, sur toutes les familles du monde, spécialement sur les familles éprouvées, les familles qui traversent des moments difficiles, des familles menacées par le virus des divorces, des familles où les enfants donnent du fil à retordre aux parents, des familles pauvres, des familles qui vivent dans la misère, Seigneur, des familles qui sont divisées parce que le papa est en prison, ou la maman, ou encore l'un des parents est malade, ou encore l'un des parents a été rappelé auprès de toi. Nous te prions, Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, de bonté infinie. Jette un regard sur toutes ces familles. Jette un regard aussi sur toutes les personnes à qui cherchent encore un enfant, alors qu'ils se sont mariés depuis peut-être plusieurs années. Ce jour-ci, tu nous montres comment est-ce que les personnes qui ne concevaient pas sont en train de concevoir, comme Élisabeth, comme Anne, comme tant d'autres femmes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Seigneur, que ton regard de miséricorde posé sur les familles, sur les parents, sur les enfants, leur apporte les grâces dont ils ont besoin. En ce moment, nous nous préparons à célébrer la fête de Noël. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Amen.